Nous continuons dans l'étude de la lettre de Paul, l'apôtre Paul, à son jeune disciple Timothée. Nous nous trouvons dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 3. Cette lettre de Paul à Timothée fait partie de ce qu'on appelle parfois les épîtres, c'est-à-dire les lettres pastorales, avec la première, la deuxième lettre à Timothée et la lettre à Tite, que Paul a écrite à de jeunes pasteurs pour les encourager à tenir ferme dans leur ministère, pour les encourager à se conduire comme Dieu le veut dans l'Église. Et en parlant à ces responsables d'Église, il parle bien sûr à tous les chrétiens, parce que quelque part, tous nous avons une position de responsable, que ce soit pour les mamans vis-à-vis de leurs enfants, pour que ce soit les pères vis-à-vis de leur famille, pour que ce soit les employés vis-à-vis de leurs collègues, les patrons vis-à-vis de leurs employés, ou toute personne vis-à-vis de ses voisins, de sa famille. Nous avons, parce que nous savons quelque chose de Dieu, nous avons connu Jésus-Christ, nous avons une responsabilité de le partager, et tous nous sommes responsables de nos actes dans ce sens. Et on a dit que la lettre de Paul à Timothée, cette première lettre, avait un verset clé qui se trouve au chapitre 3, verset 15. « Si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et on a fait remarquer que, ce qui est intéressant, Paul parle de la maison de Dieu. La maison de Dieu, pas dans la maison de Dieu, le bâtiment, mais la maisonnée, la famille qui est à l'intérieur de l'Église, qui constitue l'Église. Il y a beaucoup d'illustrations pour parler de l'Église dans la Bible, mais sans doute la plus chaleureuse, la plus belle, la plus parlante, c'est le fait que nous sommes une famille. L'Église locale est une famille et on vous encourage à ne pas papillonner. On vous encourage à vous investir dans un lieu comme vous le faites lorsque vous rentrez dans une famille, vous épousez quelqu'un, vous n'allez pas normalement aller papillonner ailleurs. Vous bâtissez quelque chose avec la famille où Dieu vous place. Et dans cette famille, on a vu comment Paul disait à Timothée de se comporter. Et les deux premiers versets de ce chapitre 5 dans 1 Timothée, c'est justement vis-à-vis de un peu toutes les catégories de personnes. D'abord les personnes âgées, on ne doit pas les réprimander avec dureté. Le mot utilisé, c'est presque le mot donner une claque. Et on doit faire preuve d'amour, de douceur. Il est dit de l'exhorter comme un père, la personne âgée, donc avec respect et affection. Pour les hommes plus jeunes, on doit les traiter comme si c'était nos frères. Et là aussi, on a dit que peut-être quand on est jeune, tout jeune enfant, on se chamaille beaucoup avec ses frères. Mais normalement, on peut avoir des relations riches et faites de respect mutuel, d'aide, lorsque on grandit, et donc on doit traiter les autres hommes de notre âge comme des frères dans l'Église. Les femmes plus âgées que nous, on doit les traiter comme nos mamans. Les jeunes femmes, on doit les traiter comme des sœurs et le faire en toute pureté. Et tout ça, on a dit que c'était en fait des relations qui devaient être naturelles au sein d'une famille. On a du respect les uns pour les autres. Il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de draguer sa sœur de façon non, de draguer sa sœur, ça se dit ce que ça veut dire, on la considère avec pureté, on n'a pas des sentiments sexuels envers une sœur, ou alors on est malade. Alors je sais qu'aujourd'hui, la famille est battue en brèche par des styles de vie alternatifs, entre guillemets. On peut vivre avec un homme, on peut vivre avec une femme, on peut divorcer, se remarier encore. Et donc, l'image de la famille en a pris un sacré coup. Et je le dis avec compassion, parce que c'est souvent bien involontaire qu'on se retrouve dans des familles divisées, décomposées, recomposées. Mais il n'empêche que l'idéal biblique, c'est que la famille, c'est un endroit formidable. Et c'est le fait, je crois, qu'on s'est éloigné de Dieu, de la Bible, qui fait qu'on se dit, bon, mais si c'est comme ça, j'en ai marre, je divorce, sans qu'il y ait de raison biblique de le faire, qui fait que certains disent, pourquoi pas vivre avec un homme, je me suis découvert des tendances homosexuelles, ou avec une femme, je me suis trouvé des tendances lesbiennes. Et puis maintenant, on va essayer de pousser l'arrivée de l'homoparentalité, où des couples de, entre guillemets, de sexe identique vont adopter des enfants. Toutes ces choses attaquent le plan de Dieu, font du mal aux hommes et à la société, sur qui se fonde sur la famille. Et la science, la biologie donne raison à la Bible. Une société ne continue que s'il y a des couples hétérosexuels qui peuvent se reproduire et avoir des enfants. Donc c'est toute cette propagande avec laquelle on vous bassine à longueur de journée dans les médias, dans les styles de vie cool, la bisexualité, toutes ces choses sont des mensonges qui viennent de l'enfer. Vous devez être bien conscient de ça. Encore une fois, il ne s'agit pas de condamner les pécheurs, mais de condamner le péché et d'offrir aux pécheurs la solution en Jésus-Christ. Une partie de la famille qui va maintenant accaparer les pensées et les paroles de l'apôtre Paul, ce sont les veuves. Les veuves dont on parle plus beaucoup aujourd'hui. Il faut dire que c'est vrai que on parle des jeunes dans notre société. Les vieux, on les met de côté pour pas qu'ils dérangent trop. Les papy boomers, ça va encore parce qu'il faut un peu d'internet, etc. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est les jeunes. Quand on arrive à mon âge, j'ai 60 ans, passé de un an ou deux, je suis né en 49, donc vous faites le calcul, 62. Vous êtes, j'espérais qu'on allait dire « Oh non !» Quand on arrive à mon âge, c'est intéressant parce qu'on voit des jeunes personnes ou des gens qu'on a connus beaucoup plus jeunes et on voit en fait que le poids des années est arrivé dessus. Et après, on regarde les jeunes, les beaux jeunes, les belles jeunes femmes, et on peut voir, on peut imaginer comment le poids des années va se montrer sur le visage. C'est bizarre, ça, comme pensée. C'est pas une histoire de prendre sa revanche sur les ans, mais vous allez très vite voir que l'âge n'y fait rien. Ce qui compte, c'est votre relation avec Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est de commencer le plus jeune possible à avoir une relation qui a du sens et de la profondeur avec Dieu. Ça veut dire que Dieu va vous donner normalement plus de temps pour le glorifier, pour propager l'évangile. Mais c'est vrai que dans nos sociétés, quelle est la dernière fois que vous avez entendu le mot de veuve ? Il y a une chose qui existe dans notre système de sécurité sociale, ce sont les pensions de reversion. Qu'est-ce que c'est qu'une pension de reversion ? C'est que si vous êtes la femme de quelqu'un qui a été retraité, lorsque la personne qui était retraitée meurt, l'État, par les entreprises et les collectivités, va continuer à vous donner quelque chose. Mais en général, on vous donne 50% de ce que recevait la première personne. C'est normal, vous étiez deux, maintenant vous êtes seul. On divise par deux. Sauf que le prix du loyer, il ne va pas être divisé par deux. Le prix de la nourriture n'est pas divisé par deux, même si c'est peut-être l'autre qui mangeait plus. Et donc, c'est aujourd'hui la portion congrue. C'est-à-dire vraiment, on parle de ces personnes au minimum. Qu'est-ce que c'est qu'une veuve ? Ben, vous me dites, c'est une personne qui a perdu son mari. C'est vrai, mais c'est aussi, on va le voir dans les versets 3 à 8, on va lire plus loin. Jusqu'au verset 16. On va lire ensemble. Honore les veuves, les vraies veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Celle qui, vraie veuve, est demeurée dans l'isolement, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Voilà ce que tu dois recommander afin qu'elle soit irréprochable. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et surtout ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été la femme d'un seul mari, qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux et recherché toute œuvre bonne. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque leur désir les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles ont annulé ainsi leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, elles ajoutent à l'oisiveté le bavardage et l'intrigue en parlant de choses dont on ne doit pas parler. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison afin de ne pas donner à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque croyant a des veuves chez elle, qu'elle les assiste et que l'Église n'en ait pas la charge, afin de pouvoir assister celles qui sont de vraies veuves. Amen. Encore une fois, on peut se dire que c'est un passage qui ne nous concerne pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, il y a la sécu, il y a le SMIC, il y a le RSA, le RMI, le RMI, le RSA, il y a la Croix-Rouge, il y a le Secours catholique, alors qu'ils ne viennent pas nous embêter, qu'ils ne viennent pas frapper à la porte de nos églises ou de nos maisons. Mais, encore une fois, c'est la charité chrétienne, c'est la Bible qui a inspiré toutes ces organisations d'aide et de soutien. La Croix-Rouge, tout ça s'est inspiré, les hôpitaux, la sécu, tout ça, ça vient de Jésus, qui a dit qu'il fallait s'occuper de son prochain comme de soi-même. Et encore une fois, il n'a pas dit qu'il fallait s'occuper de son gros chien comme de soi-même, son prochain. En France, On a un budget pour la nourriture des chiens qui excède sans doute celui de l'argent qu'on donne aux associations caritatives. C'est parce qu'on a des millions de chiens. On préfère donner de l'affection à un animal, ce qui n'est pas mauvais en soi, plutôt que de partager avec ces gens qui peuvent vous parler en retour de ce que vous leur donnez, qui sont plus embêtants qu'un chien qui vous obéit au doigt et à l'œil. Dès le début de la Genèse, Dieu prend soin des faibles. Et dans les sociétés de l'Ancien Testament, les sociétés du monde antique, les personnes qui étaient les plus en danger, c'était justement les veuves et les orphelins. On peut voir déjà Exode 22:22. Vous n'accablerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous tuerai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Tout ce passage de 22 donne des indications sur le respect de la personne humaine que les associations non chrétiennes ont redécouverte au XXe siècle. Deutéronome 27:19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'immigrant. C'est tout un autre sujet, important à annoncer en ce moment en France. Mais ce qui suit de l'orphelin et de la veuve. Malédiction sur celui qui maltraite la veuve et l'orphelin. Ésaïe 1:3. C'est tout au long, là je cite juste quelques passages pour vous montrer que ce n'est pas une nouvelle idée qui a germé dans l'esprit de Paul alors qu'il faisait une petite lettre à Timothée. Ésaïe 1:17, si je ne me trompe. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et donc tout au long de l'Ancien Testament, Dieu insiste sur le fait que l'homme qui veut lui plaire, la famille qui veut lui plaire, la société qui veut lui plaire, la nation qui veut lui plaire, doit bénir, doit prendre soin des plus faibles, en l'occurrence la veuve et les orphelins. Et on voit aussi qu'il y a toute une partie qui nous parle de la façon de traiter l'immigrant, celui qui est notre voisin mais qui n'est pas né à côté de chez nous, mais qui vient peut-être d'un autre pays. Encore une fois, c'est terrible lorsqu'en Norvège, on prétend que quelqu'un qui, au nom de l'immigration, pour lutter contre l'immigration, va assassiner indistinctement des centaines de personnes, près de 100 personnes, et qu'on dise « Ah, ça ne m'étonne pas, c'était un chrétien fondamentaliste. Ne vous laissez pas enfermer là-dedans, dites, non, attendez. » Il a peut-être dit sur Facebook qu'il était chrétien, mais il était aussi franc-maçon. Il était aussi d'extrême droite. Il était blond. Ah, c'est le problème, c'est la blondeur de ses cheveux. Vous voyez, parce que justement, c'est à l'opposé du christianisme de ne pas recevoir les migrants et de négliger les plus faibles. On se souvient dans le livre des Actes, au chapitre 6, que dès le début de l'Église, la façon dont on traitait les personnes veuves a été un sujet important. Je vais lire Acte 6, verset 1. « En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. » Alors les hellénistes, ce n'est pas ceux qui faisaient des études de classique en apprenant le grec antique. Les hellénistes, c'était les chrétiens qui parlaient grec, qui n'avaient pas une origine juive, mais une origine païenne venant de Grèce, ou qui parlaient grec. Donc ça, c'était tous les non-juifs. Il y avait des chrétiens non-juifs, Dieu merci, et ils murmuraient, ils rouspétaient contre les chrétiens juifs, qu'on appelait les Hébreux, parce qu'ils trouvaient que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Avant que n'arrive le christianisme dans la période intermédiaire, après la destruction du temple, dans le temps où il y avait des synagogues, où les juifs se rassemblaient, après la destruction du temple, il avait aussi la coutume, une fois par semaine, de faire une collecte au bénéfice justement de ces veuves. Lorsque l'Église chrétienne s'est instituée, après l'ascension de Jésus-Christ, lorsque, après la Pentecôte, l'Église a commencé, on a aussi continué à prendre soin des veuves. Et quelques années dans le livre des Actes, on voit que l'Église grandit, mais il y a des problèmes justement au niveau du service de ces veuves. Et c'est là que les 12 disciples, les 12 apôtres convoquent la multitude des disciples et leur disent « Écoutez, on ne peut pas s'occuper de faire la police pour le service des veuves. On va nommer des responsables parce que notre travail, c'est d'abord l'enseignement de la parole et la prière. » Et ils leur disent « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. » S'occuper des veuves, s'occuper d'œuvres de bienveillance au sein de l'Église, ce n'est pas moins spirituel que d'enseigner la parole de Dieu, que d'être le pasteur qui apporte la parole, parce qu'il faut être aussi là, rempli de l'esprit. C'est toujours un peu triste lorsqu'on voit que dans des associations comme l'Armée du Salut, qui à l'origine était une association chrétienne, la plupart des bénévoles maintenant sont des non-chrétiens. L'Église a dit ça, on n'a plus besoin, il y a la sécurité sociale. Je vous encourage, si vous avez, c'est quelque chose qui vous fait, qui vous touche, d'aider concrètement. Il y a plein de façons de le faire. Déjà dans l'Église, mais si vous voulez le faire plus régulièrement, on n'a pas de ministère de service de repas pour l'instant, mais on a par l'intermédiaire d'associations, de personnes qui sont dans l'Église, des ministères de vestiaires. Si vous avez des vêtements à donner, on peut les donner à ces personnes qui les offrent à des immigrés, à des veuves, à des familles dans le besoin. Il y a tout un tas d'œuvres caritatives qui doivent être accomplis, et la Bible nous encourage à regarder ces ministères comme des ministères essentiels. Ce n'est pas des moindres choses que de s'occuper des tables, servir aux tables. Et les apôtres ont dit, si vous faites ça, nous pourrons persévérer dans la prière, verset 4, et dans le service de la parole. Et on voit que le problème est ainsi réglé. Mais on voit l'importance du service des personnes les plus faibles dans la communauté de l'Église, dans la communauté en général. Alors là, on voit qu'il y avait une liste, verset 9, pour qu'une veuve soit inscrite sur la liste. Il n'y avait pas Excel, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de machine à écrire, mais il y avait des listes. Et pour bénéficier des soins de l'Église, de la nourriture, peut-être de l'aide au logement, peut-être du logement, il fallait remplir un certain nombre de conditions. Et lorsqu'on était sur cette liste, on avait droit d'être au bénéfice de toutes ces actions d'amour pratique. C'est intéressant de voir toutes les catégories de veuves qu'il distingue. Encore une fois, les gens vivaient beaucoup moins longtemps qu'à notre époque. Aujourd'hui encore, ce sont les hommes qui vivent le moins longtemps. Mais parce que les femmes se sont libérées et qu'elles fument comme des pompiers autant que les hommes aujourd'hui, elles sont en train de rattraper la durée de vie minimum des hommes. Mais à l'époque, c'est vrai que les hommes mouraient beaucoup plus jeunes. Souvent, c'est eux qui étaient impliqués dans l'armée, dans les combats. C'est eux qui travaillaient le plus péniblement au soleil avec les animaux, etc. Et il y avait une plus grande présence de veuves. Mais aujourd'hui, ça n'est pas tellement différent. Nous habitons un immeuble où il y a malheureusement beaucoup de personnes âgées. Et en fait, il y a beaucoup de veuves, des petites veuves, qui sont seules, qui nous touchent beaucoup. On a le Café Colombe, qui est destiné aux jeunes plutôt, le jeudi soir. Et le Seigneur est en train de nous mettre à cœur avec Nancy et d'autres. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour ces personnes âgées qui n'ont pas de liens sociaux? Leur seul lien social, c'est la télé. C'est les personnes qu'elles croisent et à qui elles disent bonjour, et on leur dit bonjour et puis ça s'arrête là. Et si vous vous dites, c'est moi, j'ai pas le temps, dites-vous qu'un jour vous serez de l'autre côté et que vous aimeriez à ce moment-là que des personnes pensent à vous. Alors ça, c'est une petite application de ce texte. Encore une fois, n'allez jamais ouvrir la Bible en disant « Oh, ça c'est pour mon instruction religieuse, pour mes connaissances théologiques, pour mes connaissances historiques sur l'Ancien Testament, sur les débuts de l'Église ». Non, Dieu veut nous toucher au cœur, il veut que sa parole, elle débouche sur de l'action, qu'elle soit mise en pratique pour qu'elle le glorifie, pour que ça glorifie Dieu. Honore les veuves, les vraies veuves. Honorer, c'est pas seulement dire on vous remet une médaille. Honorer dans ce sens-là, c'est prendre soin. Ça veut dire pourvoir ou veiller à ce que leurs besoins soient assurés. Et il a ce mot, les vraies veuves, pas les fausses. Parce qu'il va au verset 4, ce qu'il veut dire là, c'est que l'Église doit prendre en charge, nous devons en tant que chrétiens aider à la prise en charge des personnes vraiment démunies. Parce qu'il ajoute, verset 4, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, que ses jeunes enfants ou petits-enfants, même les petits-enfants, apprennent d'abord à exercer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Honore ton père et ta mère, c'est un des 10 commandements, avec une promesse de longue vie. Si tu fais cela, tu vivras longtemps. Et il m'est venu à l'esprit qu'il y a cette promesse, mais qu'elle peut presque s'expliquer logiquement. Parce que si les enfants vous voient prendre soin de vos parents, ils apprendront à prendre soin de vous dans votre vieil âge. Et ainsi vous pourrez vivre peut-être plus longtemps. C'est pas ce que dit les 10 commandements, mais encore une fois on voit qu'il y a des logiques que la psychologie ou la science moderne va trouver 4000 ans, 5000 ans plus tard. Si une veuve a des enfants, c'est à eux qu'incombe la responsabilité de subvenir aux besoins de la maman ou de la grand-maman. Alors là, encore une fois, on parle des veuves, Mais voyez, ça peut être vrai pour le veuf, un petit veuf qui est tout seul, il a droit aussi à notre compassion. Mais à l'époque et aujourd'hui encore, il y a plus de veufs, de veuves que de veufs. C'est pas neuf. Ça rime. C'est drôle parce que ces versets, vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'on... 11h25, on parle de veuve à droite, à gauche. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, je dois retourner au travail cet après-midi. Sachez que la parole, si vous la laissez entrer dans votre cœur, elle va venir vous taquiner plus tard. Moi, je sais que j'avais assisté à une étude détaillée du livre de Timothée à Seattle. Et puis, j'avais ma mère qui habitait Antibes, qui était veuve, mon père était décédé. J'avais une sœur qui prenait soin d'elle, qui en fait donnait sa vie pour prendre soin d'elle avec son mari. Et nous, on était à Seattle et on était tranquille. On n'avait pas besoin de s'occuper. J'avais pas besoin de m'occuper de ma mère. Je lui envoyais des cartes postales. On envoyait des milliers de photos de Tonio, des centaines de photos de Sébastien parce qu'on en prenait moins au deuxième. Mais ce verset, en fait, c'est celui qui m'a conduit à revenir en France. C'est celui qui m'a conduit à envisager d'implanter une église en France. Parce que j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire loin de ma famille à travailler pour le Seigneur alors qu'il y a des besoins criants à la maison. Et donc ce verset m'a titillé, il m'a repris jusqu'à ce que finalement je revienne en France et que je puisse être un encouragement pour ma maman. Qu'elle puisse connaître enfin ses petits-enfants qu'elle voyait que sur des photos. À l'époque, il n'y avait pas Skype, il n'y avait pas d'email encore. C'était les cartes postales qu'on envoyait chaque semaine avec des photos qu'on avait fait imprimer dans le magasin. Donc faites attention. On marque sur les paquets de cigarettes. Attention, fumer tue. On devrait mettre un avertissement sur la Bible. Attention, lire ce livre peut bouleverser votre vie. Attention, la Bible donne la vie. Ce serait bien ça de faire un signe pour ceux qui aiment partir avec des idées et les mener jusqu'à la réalisation. Les entrepreneurs, on les appelle. Donc celle qui a des enfants, des petits-enfants, d'autres personnes qui peuvent prendre soin d'elle, c'est pas une vraie veuve, au sens où Paul veut que nous considérions l'assurance des besoins d'une vraie veuve. Il parle aussi de la vraie veuve qui est demeurée, verset 5, dans l'isolement, qui a mis son espérance en Dieu, persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Et là, Paul nous montre que ce qui caractérise une vraie veuve, c'est d'abord l'isolement économique et l'isolement familial, émotionnel. Ce qui fait que je pense qu'il est tout à fait justifié de considérer comme une veuve non seulement les femmes dont le mari est décédé, mais les femmes qui ont été laissées par leur mari, les femmes divorcées seules, les mamans célibataires. Et là, peut-être qu'on ne parle plus de veuves, on n'en a pas tellement. Si on en a, je ne sais pas trop. Il faudrait que je réfléchisse. Mais des mamans célibataires, on sait ce que c'est. Et il y en a qui savent ce que c'est de l'intérieur. Et donc, l'Église doit montrer cette compassion en action pour ces mamans célibataires, pour ces mamans isolées, qui ont souvent une pauvreté financière, malgré les RMI, les RSA, les allocations familiales, qui font que, c'est vrai, même si on les laisse toutes seules, elles ne dérangent pas trop parce qu'elles peuvent vivoter. Mais ces vraies veuves qui sont dans l'isolement, on doit les honorer, on doit les servir, on doit veiller à ce que leurs besoins soient assurés. Il parle d'autres veuves qui vivent dans les plaisirs, qui sont mortes, quoique vivantes. Ça veut dire qu'il y a des dames veuves. Il y avait une opérette. Si vous savez ce que c'était que les opérettes que ma mère aimait beaucoup, qui s'appelait la veuve joyeuse. Et souvent, une femme veuve, mais qui est joyeuse, c'est-à-dire qui est veuve, qui n'a plus son mari, mais qui peut faire la fête, qui peut sortir comme une jeunette, comme une femme célibataire. Il dit que elle vit dans les plaisirs, mais elle est morte spirituellement, même si elle est vivante physiquement. Celle-là, c'est pas à elle que l'Église doit consacrer son effort. Voilà, verset 7, ce que tu dois recommander donc aux veuves et à leurs enfants et petits-enfants, afin que tout ce monde soit irréprochable. Verset 8, un principe très fort. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Waouh ! Ça, c'était la partie de ce passage qui m'a vraiment remis en question, et j'ai dit, j'ai ma mère qui m'a élevé, qui m'a aimé, qui m'a choyé, qui m'a aidé à grandir. Ça rejoint le verset 4, c'est de payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Vos parents se décarcassent pour vous, se sont décarcassés pour vous. Alors peut-être vous avez des mauvaises relations avec vos parents, mais reconnaissez que sans eux vous ne seriez pas là. Déjà génétiquement, physiquement, vous ne seriez pas arrivé. Et puis, même s'ils n'étaient pas des modèles, le fait que vous soyez là, ça veut dire qu'ils ont pourvu quelque part à vos besoins élémentaires, la nourriture, le logement. Et c'est la moindre des choses que d'assurer cela en retour à nos parents. C'est un principe qui va au-delà de la situation avec les veuves. N'importe qui, si vous ne prenez pas soin de votre famille, n'allez pas faire de l'évangélisation. N'allez pas parler de Jésus autour de vous. Votre première responsabilité, c'est d'assurer un foyer, de la nourriture, il faut que vous travailliez pour votre famille. Alors encore une fois, il y a des situations qui peuvent justifier qu'on ne travaille pas, mais dans notre monde aujourd'hui, alors c'est peut-être pas le travail idéal, c'est peut-être pas le travail pour lequel vous avez été formé, mais vous devez être responsable pour votre famille. Encore une fois, il y a la sécu, il y a les allocs, il y a la CAF. Donc on peut envisager de vivre sans travailler. Mais ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un témoignage chrétien. Ces choses-là sont des bénédictions pour nous aider dans les cas durs, dans les coups durs. Mais n'attendez pas qu'on vous donne le travail idéal. Allez chercher du travail, frappez aux portes. Regardez dans les supermarchés, regardez à Lidl. Il y a toujours un signe à Lidl qu'on recherche des caissiers, des caissières. Alors peut-être vous allez dire justement, ils recherchent toujours parce que c'est un travail de dingue. Peu importe. Assumer, assurer, c'est une grande responsabilité. Paul disait dans 1 Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas ne soit pas nourri. Vous devez, si vous en êtes capable, si vous avez la capacité physique et intellectuelle, vous devez trouver du travail. Vous devez démarcher, vous devez frapper aux portes. Vous devez être prêt à faire n'importe quoi. Alors, je suis pas là pour me mettre en exemple. J'ai une formation d'ingénieur. J'ai travaillé dans l'informatique pendant de nombreuses années. Lorsque je suis venu à Nice pour être pasteur ou pour commencer une église, j'étais soutenu par quelques amis et églises, mais ce n'était pas suffisant. Et donc, je travaillais à la réception de l'auberge de jeunesse. J'allais à 6 heures du matin préparer le petit déjeuner. Je travaillais en pleine chaleur jusqu'à 2 heures de l'après-midi et je rentrais et je faisais mon travail de pasteur. Alors, je ne dis pas ça du tout pour me mettre comme un modèle, mais ça doit être votre esprit. Vous faites tous vos efforts pour assumer les besoins. Et si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, alors il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors encore une fois, il y a des tas de situations qui peuvent justifier le fait que vous retrouvez sans travail, mais ne vous complaisez pas dans cet état. On a des exemples dans l'Église de gens qui ont des diplômes supérieurs, qui sont bardés de diplômes, mais qui assurent leur survie, leurs besoins, en faisant la plonge. Gloire à Dieu! Ils ne se pensent pas au-dessus de faire la plonge, de balayer devant l'auberge de jeunesse, d'aller nettoyer les toilettes à l'auberge de jeunesse. Ce n'est pas parce qu'on a fait 10 années d'études, on devrait remercier Dieu qu'on a pu faire 10 années d'études, en espérant trouver un travail dans sa branche. Mais en attendant, il y a des priorités. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi. Ce sont des paroles très dures. Et encore une fois, c'est pour que ça rentre. Et c'est l'Esprit Saint, c'est pas moi, en criant plus fort. C'est l'Esprit Saint qui doit vous reprendre et vous dire que, attention, il y a des priorités à respecter. Les conditions pour être sur la liste des veuves, c'est d'avoir pas moins de 60 ans, avoir été la femme d'un seul mari. C'est un peu strict. Qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux et recherché toute œuvre bonne. La veuve devait avoir servi dans l'Église, devait avoir aimé les autres aussi. Si c'est quelqu'un d'égoïste qui n'a jamais levé la main pour aider quiconque, elle n'était pas connue pour être sur la liste, pour être au bénéfice de la compassion, de l'action, du soutien financier, du soutien moral, émotionnel de l'Assemblée. Et puis il a cette addition, il refuse les jeunes veuves parce qu'il dit ce qui est bon pour elles. Une jeune veuve, elle peut se remarier. Et souvent, elles vont avoir du mal à se consacrer au service dans l'Église, ce qui était la tâche des autres vraies veuves, entre guillemets, parce que ce qui est bon pour une jeune femme, même si elle est veuve, c'est de pouvoir être mariée, de continuer d'avoir des enfants, diriger une maison et d'être occupée à s'occuper de leur maison. Parce que sinon, le danger, c'est verset 15, elles peuvent se détourner pour suivre Satan et elles peuvent aller de maison en maison ajouter au fait qu'elle ne travaille pas le fait qu'elle cancane, qu'elle raconte des histoires. Elles ajoutent à l'oisiveté le bavardage. Blablabla, tu ne sais pas ce qu'il m'a dit, qu'il m'a fait, qu'il paraît que... Blablabla. Et puis l'intrigue. Oh mais attends, on va arranger ça, je vais faire ça, comme ça, ça va lui montrer. En parlant de choses dont on ne doit pas parler. Est-ce que vous parlez de choses dont on ne doit pas parler? Est-ce qu'il y a des secrets qu'on vous a confiés que vous répétez? Vous voyez comment l'esprit peut toucher nos cœurs et nous dire « Qu'est-ce que j'ai dit cette semaine que j'aurais pas dû dire, qu'on m'avait dit en confidence ?» Et donc, cette recommandation qui rejoint Jacques 1, 27, si vous voulez regarder avec moi. On dit souvent du livre de Jacques que c'est le livre des proverbes du Nouveau Testament parce que ce sont des petites exhortations, comme des proverbes ou des maximes à mettre en application. Jacques 1, 27, et là on reprend, Jacques, on arrive, voyez, à la fin de la Bible. Et on retrouve le même souci de Dieu pour les plus faibles. La religion pure et sans tache. Alors ce n'est pas la religion faite de fausse religiosité. Là il parle de la vraie relation avec Dieu, la bonne relation avec Dieu, pure et sans tache devant Dieu le Père, consiste en quoi ? À visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se garder des souillures du monde. Alors vous vous dites, ah ben c'est bien, je vais aller voir rendre visite à telle ou telle personne que je connais, peut-être une maman célibataire. Je dis, hey, bonjour. Donc j'aurais fait la religion pure et sans tache, je pourrais dormir la conscience tranquille. Non, c'est plus que juste rendre visite, c'est montrer de l'intérêt, c'est montrer de l'affection, c'est aider pratiquement, physiquement, émotionnellement, financièrement, être veuve, ça comporte des afflictions. Être maman célibataire, c'est pas facile. Être une vraie veuve qui n'a aucune ressource, c'est pas facile. Ce sont des afflictions, des choses qui peuvent vous écraser. Et Dieu veut que nous montrions cette compassion. On peut penser à Michée 6:8. Où le prophète dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » La religion, c'est la vraie foi, ce qu'on doit faire devant Dieu, on le sait. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. On l'a fait connaître dans l'Ancien Testament. Dieu continue de le faire connaître dans le Nouveau Testament. S'occuper des veuves, des vraies veuves. Encore une fois, pour l'histoire des jeunes veuves, il n'est pas question de dire « Ah ben ça, c'est une jeune maman célibataire, on ne s'en occupe pas ». C'est pour elle de ne pas se rendre coupable des choses dont Paul parle ici, de se complaire dans l'oisiveté, et alors qu'elles sont encore en état d'élever une famille, de diriger leur maison, s'occuper de leurs enfants. Mais ça ne veut pas dire que l'Église ne montre pas de la compassion, ne montre pas de l'aide. Là, il s'agissait d'un système bien établi dans l'Église du 1er siècle, de la liste des veuves. On n'est pas, aujourd'hui, on n'a pas une liste des gens que l'Église aide. On n'est pas encore en mesure de le faire de façon régulière. On espère, par l'association 1901 qu'on a créée, peut-être d'autres qu'on créera, de venir en aide matérielle. Mais rien n'empêche chacun de nous d'aider financièrement, émotionnellement, et de montrer au monde ce souci que l'Église a pour tous ses membres, tous les siens. Parce que ces membres sont aussi des membres de l'Église, donc des membres de notre famille. Et si nous ne prenons pas des soins des nôtres, surtout de notre famille et l'Église, c'est comme si on a renié la foi, qu'on est pire que des gens infidèles, des gens non-croyants. Dieu a toujours pris de ces personnes. Si ce n'est pas l'Église, il arrive à prendre soin d'elle par la sécu, par la CAF, par les allocs. Mais ça devrait être la première responsabilité de l'Église. Dieu prenait soin des veuves dans l'Ancien Testament avec des lois sur le fait que ceux qui récoltaient leurs champs ne devaient laisser des épis sur les blés pour que les femmes puissent glaner. C'est un principe important, c'est on ne donne pas gratuitement. On ne dit pas, tiens, je te donne de l'argent, profites-en. Si la personne peut travailler en retour, si la personne peut aider dans l'Église, elle doit le faire. D'abord, il en va de la dignité de la personne. Pourquoi est-ce que la France est le premier consommateur de Valium, etc.? C'est parce que les gens sont dans la déprime. Pourquoi ils sont dans la déprime? Parce que la situation est mauvaise. Oui, c'est mauvais dans plein d'autres pays, mais c'est parce qu'on vous invite à regarder la télé gratuitement toute la journée en étant déprimé et en étant soutenu par des allocations. Si vous êtes en état de bosser, allez bosser. Alors bien sûr, encore une fois, il y a la maladie, il y a le chômage, il y a la situation économique. Mais ayez cette attitude à tout prix de vouloir subvenir aux besoins des vôtres et aux besoins de ceux qui vous entourent. Je crois que j'ai perdu le fil de ma pensée. Je disais oui, le travail... Il donnait la dignité aux gens à qui il donnait les blés à glaner, parce que pour récolter ces blés, les gens devaient aller dans les champs, travailler. Mais il était le meilleur exemple, c'est dans le livre de Ruth, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. On sait que Ruth et sa belle-mère Naomi étaient dans la plus grande destitution, dans la plus grande besoin, le plus très nécessiteuse. Mais il y avait la bonté de Boaz, le parent éloigné, c'est toute une histoire en elle-même que Raphaël vous avait enseigné l'an dernier, qu'on avait vu déjà aussi. Il y avait la dignité d'avoir allé chercher du travail. Plutôt que de recevoir un chèque sans avoir à rien faire. Encore une fois, la société moderne s'est éloignée de la Bible. Et on en paie le prix. On croit avec nos lumières, nos philosophes, nos droits de l'homme et du citoyen. C'est arrivé à la Révolution, ça, non? Donc c'est bien républicain, nos valeurs républicaines. On croit qu'on va régler les problèmes de la société autour de nous. La société, elle commence dans ma famille, dans l'Église. Et par l'influence de l'Église, elle doit s'étendre à toute la société. Prions. Seigneur, tu vois, ces sujets peuvent nous paraître bien lointains et pourtant la réalité de la présence de personnes qui ont de grands besoins financiers, de grands besoins émotionnels, reste parmi nous. Touche nos cœurs, Seigneur. Apprends-nous que ces paroles, tu les graves quelque part au fond de nos cœurs et que le moment venu, elles puissent diriger nos vies. Dans le nom de Jésus, amen. Juste pour terminer, une petite anecdote. On vient de recevoir une vidéo sur Facebook. C'est pour ça que Facebook n'est pas tout mauvais. On a connu une jeune femme qui était célibataire lorsque nous étions à Seattle. Elle s'occupait d'enseignement des femmes et elle avait un ministère très, très vibrant pour apprendre aux gens à apprendre à étudier la parole. Et ses parents étaient très fortunés. Son papa travaillait dans la publicité. Il avait racheté une maison, c'était presque un château dans une partie très huppée de la ville de Seattle. Il était responsable spirituel d'une grande équipe de football américain. C'est un peu comme si c'était le chaplain du PSG. Il recevait des gens du show business chez lui. C'était quelqu'un de très connu. Sa fille était très humble. Elle servait le Seigneur de tout son cœur. Elle nous a beaucoup apporté. Elle m'a beaucoup encouragé dans l'étude de la parole. Et puis, quelques années après, elle a pu épouser quelqu'un. C'était en fait quelqu'un qui avait des problèmes d'homosexualité, mais qui avait été touché par le Seigneur et qui était devenu un homme engagé dans l'Église. Ils se sont mariés, ils ont eu 3 enfants. Et puis lui a été repris par le démon de l'homosexualité, il a quitté sa femme. Elle a continué à servir le Seigneur, à travailler, à donner des cours. Elle est maintenant, depuis des années, responsable de l'éducation de l'école du dimanche. Et elle donne sans compter. Et puis, ses amis dans l'église ont aperçu qu'en fait, elle avait vraiment besoin d'aide. Elle était tellement prise à servir les autres que sa maison était complètement à l'abandon. Il y avait, sur la vidéo, on voit l'arrière du jardin, on voit les pièces. Et elle qui avait vécu dans le luxe, elle vivait dans presque le dénuement. Et l'Église a décidé de mobiliser les gens qui peuvent travailler, de mobiliser des finances pour bénir cette jeune veuve, bien que son mari ne soit pas mort, mais elle est séparée, une maman célibataire avec 3 grands-enfants maintenant. Et lorsque j'ai vu cette vidéo, j'ai été ému aux larmes. Et j'ai dit, voilà une vraie veuve. Elle n'a jamais essayé de recevoir, elle a toujours donné. Et l'Église a enfin réalisé qu'elle devait s'occuper d'elle selon ses versets. Et c'est merveilleux de voir quand la parole est mise en pratique. Et ça, j'ai dit, c'est incroyable que, à Nancy, c'est incroyable que tu me montres ça. Elle m'a dit, tu vas voir, il y a une vidéo qui va te faire pleurer. J'ai dit, mais je pleure pas, moi, je pleure jamais. Et puis elle avait raison. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen.